C'est le GSRL qui m'a donné le pouvoir pour un instant, mais pas trop de pouvoir comme vous venez de voir. Mais je vais profiter de l'autre du pouvoir pour faire un peu de discutant. Et je ne vais pas discuter toutes les interventions, mais je voudrais quand même dire deux choses qui le pouvoir ne discute pas. Les pouvoirs profitent. Et je veux profiter pour poser deux questions. L'une sur le thème de la nature et le thème de la nouvelle position de la nature, cher Philippe, de la loi naturelle. La Bible est disparue des discours de l'Église catholique en France et en Espagne. Il n'y a plus de citations de la Bible, ni ancienne ni nouvelle Bible. Et il y a seulement citation de la loi naturelle. C'est une culturisation occidentale, c'est-à-dire c'est une approche à la culture occidentale, une approximation à la culture occidentale, parce que la culture occidentale dit que la nature est toujours en face de la culture. Parce que la culture, il y a plusieurs cultures, tandis qu'il y a une seule loi naturelle. C'est l'objectivité, c'est ce qui est objectif. Mais actuellement, le problème est que ce n'est pas les sciences de la nature qui doivent définir ça, mais c'est l'Église catholique qui se dédie à nous dire qu'est-ce que c'est la nature objectivement. Et l'autre question qui est très importante du point de vue de l'écologie, non, c'est très intéressant, hein, c'est disparu. Philippe l'a vu en France, je l'ai vu en Espagne, le discours de l'Église officielle. L'autre question, c'est que l'écologie a fait son travail de civilisation, comme dirait Daniel Hervieux. Et c'est-à-dire que l'écologie a contribué beaucoup à la perte des racines, à l'exculturation de la culture catholique, à la perte de racines catholiques de la culture française, espagnole. J'étais dans une thèse à Louvain-la-Neuve, où on a fait une étude qualitative sur beaucoup de jeunes francophones. Et j'étais au jury. Et on voyait comment c'est un de la représentation de la mort, ce qui est très important. On pourrait parler du travail, la représentation de ce qui est le travail pour l'être humain. Où la représentation de notre propre mort a été vraiment colonisée par l'écologie dans les jeunes. C'est un travail d'exculturation très fort. Hein. En Espagne, ça existe aussi. Bon. Et l'autre question que je profite, c'est une question tout juste. C'est sur le thème de la. Pourquoi je voudrais demander, profiter pour demander. Pourquoi cette capacité de croissance de l'évangélisme, les pentecôtismes, parce qu'il y a seulement une autre religion qui, à des moments donnés, a monté beaucoup plus que même l'évangélisme. Ce sont les Mormons, mais c'est une chose intérieure, très localisée à Utah, aux États-Unis et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est? Quel mélange, quel cocktail il y a là-dedans? Et qu'est-ce qu'il y a dans sa forme d'organisation, dans la souplesse, dans la capacité pratique et plastique de former des communautés? Quel mélange, quel cocktail de religion, des manques relatifs de centres, des décentralisations réelles par rapport aux catholiques, par exemple, en Amérique latine, par exemple. Et qu'est-ce que c'est cette plasticité? Pourquoi? Quelles seraient les raisons théoriques analytiques à partir desquelles on pourrait commencer à penser pourquoi le succès de cette... Par exemple, en Espagne, je termine, en Espagne, presque la moitié, c'était un processus de conversion massive à l'évangélisme de la population gitane, à partir de la France précisément. Des récoltes de vignobles, des gitans qui venaient et qui, après ça... Mais c'est une conversion massive d'un pays qui était très catholique, d'une communauté qui était très catholique, entre guillemets, parce que c'était catholique, mais religion populaire, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas bien prise par l'Église catholique. Bon, alors, si vous voulez dire quelque chose...
Alors, merci pour ces questions. Moi, je vais répondre aux deux questions en même temps. Et d'abord, préciser, en m'excusant, que je ne suis pas du tout le plus qualifié pour parler du discours catholique ici. Et donc, je vous invite à la pause à aller voir M. Portier ou M. Bertina pour en discuter plus précisément. Ce que je peux dire par rapport à ma recherche, et qui me permet donc de lier les deux questions, c'est que, à mon avis, un des arguments de ma thèse, c'est que l'héritage catholique n'est pas forcément là où on le cherche. Et que, par exemple, qui dans mon panel me parle de loi naturelle, c'est les gens qui sont déchristianisés et qui, justement, ne font plus le lien entre ce terme de loi naturelle et des enjeux sociaux particuliers, qui étaient des enjeux sociaux très fortement ressentis par les parents de certains agriculteurs, par les agriculteurs eux-mêmes dans les années 60, où il s'agissait vraiment de proposer un modèle social de propriété de la terre, un modèle social qui parle aux réunions syndicales, qui s'opposait à un modèle traditionnel où les gens au pouvoir se réclamaient de la loi naturelle. Et donc, un de mes arguments, c'est de dire que cet oubli de cette situation sociale-là concrète où la loi naturelle voulait dire quelque chose, permet à certaines personnes de me dire en toute bonne foi qu'évidemment qu'il y a une loi naturelle puisque on ne peut pas planter des choux au milieu de l'hiver ou je ne sais quoi. Et donc, ce que je défends, c'est qu'en me disant ça, il y a effectivement une bonne foi et en même temps, ça implique des significations dont ils n'ont pas forcément conscience. Et donc, ça retravaille les relations politiques, les relations aussi professionnelles de manière particulière. Et donc, plus que de parler d'une exculturation, je parlerai plutôt d'un héritage catholique qui se brouille, mais qui est encore présent, mais qui se réorganise et qui passe par des canaux pas forcément les plus évidents. Et notamment, je pense qu'il y a aussi un héritage chrétien, peut-être pas exclusivement catholique, mais chrétien en général, qui circule via l'écologie elle-même. Et on sait en France que certains nombre de précurseurs de l'écologie sont des penseurs, notamment protestants, et que le personnalisme est particulièrement prisé chez un certain nombre de militants écologistes. Voilà, merci.
Oui, alors très brièvement pour répondre à la question du pourquoi ça marche, pourquoi l'évangélisme se développe. Alors on pourrait en parler pendant des heures, il y a de multiples facteurs. Bon, j'en retiendrai très très brièvement deux. Je pense qu'un élément très important, c'est la manière qu'a l'évangélisme d'une manière générale, au-delà des diversités confessionnelles, de réécrire la relation individu-communauté. Dans la trajectoire de la modernité, très très schématiquement, l'individu est sorti des communautés naturelles est devenu un acteur individuel qui choisit sa propre trajectoire, ses propres options, l'individuation des options religieuses. Bon, c'est un fait marquant dès le 19e siècle dans la société française, par exemple. Le fait est qu'à l'intérieur de la modernité, travaillée aussi par des logiques économiques, libérales, néolibérales, il peut y avoir des trajectoires jusqu'à l'atomisation des individus simplement comme un agglomérat de consommateurs. Je pense qu'une des valeurs ajoutées de l'offre sociale des églises évangéliques, c'est que d'une part, elles surfent sur les processus d'individuation, elles mettent très fortement en avant effectivement la religion par choix, la conversion, le fait qu'on prend une décision personnelle, on choisit Jésus dans sa vie personnelle, c'est une rencontre subjective, donc on surfe sur cette tendance-là de la modernité, mais en même temps, il y a un processus de recommunautarisation très fort, mais plus via des communautés naturelles hein, qui sont rejetées au nom de l'ordre ancien, bon, qui n'est plus celui de la modernité, mais des sociétés volontaires. L'Église évangélique, c'est une association volontaire de virtuoses du religieux, en tout cas en principe, hein, pour reprendre une terminologie de Max Weber, c'est-à-dire qu'on se choisit. C'est une fraternité élective, pour reprendre aussi une formule de Daniel Hervieux-Léger. Donc, d'une part, il y a ce procès d'individuation qui est en phase avec la modernité, et en même temps, les effets potentiellement mortifères d'une certaine modernité néolibérale, notamment, il suffit d'aller dans les grandes mégapoles d'Afrique pour s'en rendre compte, ces sociétés rurales qui sont déstructurées par l'impact des multinationales, de la monoculture, ces villages qui disparaissent, ces populations qui, par dizaines de milliers, s'agglomèrent dans les mégapoles, avec un tissu social qui se délite. L'Église évangélique propose dans ce contexte-là un nouveau modèle communautaire. Donc ça, c'est un élément très très rapidement, me semble-t-il. Et puis deuxième élément, l'évangélisme, c'est aussi une religion pour espoir. C'est pas une religion pour mémoire. C'est une religion pour espoir qui met peu l'accent sur les racines, qui met en revanche très fortement l'accent sur l'intramondanéisation du salut. Ça me fait penser à une publicité d'une ONG évangélique, non pas américaine, mais anglaise. Ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué, ça, il y a quelques années. Sa publicité était basée sur le fait qu'il y a une vie avant la mort. Donc, c'est plus le salut extramondain du christianisme médiéval, alors c'est peut-être une caricature ou un idéal type, mais schématiquement, on maintenait l'ordre social aussi au profit, notamment d'un certain nombre de dominants, en prêchant la soumission à l'ordre établi, puisque de toute façon, les bénéfices du salut, ils seront là, mais après la mort. En attendant, il faut rester chacun bien à sa place. L'évangélisme met au contraire l'accent sur le salut intramondain, ici et maintenant. Il y a une vie avant la mort, avec toute la dimension thérapeutique aussi, des églises pentecôtistes charismatiques. Et ça, je pense que dans un monde globalisé, marqué là encore, par aussi beaucoup de misère, d'enjeux sociaux considérables, je pense que cette dimension du salut intramondain, tant mis en avant par ces églises, est certainement un élément qui contribue à leur développement.
Merci. Ma question est liée aux deux exposés sur le franco-judaïsme et l'évolution de la pensée juive. Il y avait lundi dernier au Collège des Bernardins une très belle cérémonie dont les acteurs principaux étaient le grand rabbin de France, Raïm Korsia, et le cardinal archevêque de Paris, Mgr 23. Comment appréciez-vous l'existence et la célébration qui fut faite des 50 ans de l'encyclique Nostra Aetate qui a changé donc la relation entre catholicisme et judaïsme? Comment évaluez-vous l'impact de cette encyclique et du changement dans les relations entre les deux religions dans l'évolution et du franco-judaïsme et de la pensée juive?
Je vais laisser la parole à Martine puisqu'elle a assisté à la rencontre. Moi, ce que je peux dire de manière peut-être plus générale, c'est que l'un des facteurs effectivement qui a contribué au développement de la pensée juive française contemporaine, c'est l'évolution du dialogue interreligieux et tout particulièrement du dialogue entre le judaïsme et le christianisme, et que ce qu'on peut noter, sans entrer dans les détails, c'est là aussi un enrichissement à la fois des interlocuteurs qui sont concernés par ce dialogue, puisque avec la diversification justement des courants religieux, il n'y a plus un dialogue interreligieux, mais des dialogues interreligieux, puisqu'il y a des interlocuteurs qui sont très différents en fonction des différents courants du judaïsme qui se multiplient. Et puis aussi, il me semble, un enrichissement des questions abordées dans le cadre de ce dialogue, qui sortent peut-être de questions strictement théologiques, et puis qui vont très 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 largement vers des questions d'ordre plus sociétal, disons. Voilà pour ce qui est de manière très globale sur le dialogue judéo-chrétien. Mais peut-être plus précisément sur ce que vous évoquiez, je laisse la parole à Martine qui a assisté à la rencontre au Bernardin.
Je n'étais pas au Bernardin, j'étais le lendemain à Tours à une autre commémoration sur les 50 ans du Nostra Aetate, commémoration colloque entre les deux, quoi. Et c'est là-bas à Tours, mardi dernier, que j'ai entendu parler de ce qui s'était passé la veille au Bernardin, à savoir cette signature, ce texte écrit qui s'appelle « Réponse des Juifs à Nostra Aetate », que j'ai lu à toute vitesse hier ou avant-hier quand je l'ai reçu sur mon ordinateur, et qui est vraiment une réponse positive du judaïsme, du monde juif au monde catholique, au monde chrétien, et comment dire, qui est une réponse qui se met sur un pied d'égalité, premièrement. Et ce que je voudrais juste dire, j'ai pas inclus, mais c'est une bonne proposition que vous faites là, d'inclure dans la réflexion sur les évolutions du franco-judaïsme ce dialogue entre chrétiens et judaïsme, en chrétiens et juifs, parce que il me semble, comme ça, sans avoir réfléchi complètement, mais à chaud, hein, il me semble que à un moment donné où le consistoire central était en train de se radicaliser dans un sens ultra-orthodoxe, était en train de s'éloigner complètement du dialogue interconfessionnel, en particulier avec les chrétiens, eh bien, ceux qui ont pris le relais, c'était les libéraux et les massortis, justement, qui sont restés très présents dans le dialogue interreligieux avec le christianisme. Et donc, alors qu'auparavant, Jules Isaac, bon, ce n'était pas un juif pratiquant ou croyant particulièrement, mais Jules Isaac, il faisait partie de ce judaïsme consistorial, mainline, mainstream, je ne sais pas comment on peut dire ça, type église, comme on dirait chez Weber. Voilà, c'est ces courants-là qui ont gardé le relais. Et au Bernardin, ce qui était une chose importante aussi, c'est pas seulement ce judaïsme qui répondait positivement au monde catholique, qui avait fait un pas énorme vers eux, vers le monde juif, c'était aussi le fait que le Grand Rabbin de France y avait convié, Chaim Korcha, y avait convié un rabbin libéral de l'Union libérale de Copernic, le rabbin Philippe Haddad, anciennement consistorial, qui a quitté le consistoire, est devenu donc chez les libéraux, et un rabbin massorti, le rabbin Rivon Krigier, qui sont tous deux engagés dans le dialogue inter. Donc, c'est une vraie révolution au sein du consistoire, le grand rabbin de France prenant le pouvoir sur le président qui n'a rien à faire du dialogue interconfessionnel, le président du consistoire, je veux dire.
Est-ce que je peux me permettre, à vos explications, d'ajouter le rôle de Emmanuel Levinas, qui a été le conseiller de Paul VI au moment de la rédaction de Nostra Aetate, et le rôle aussi de quelqu'un qui a traduit au fond les trois livres, André Chouraki, et qui a aussi joué un rôle, c'est-à-dire que les papes ont demandé, et c'était quand même une première, pas à titre de conseiller secret, ce qui était arrivé dans le passé, mais de conseiller très officiel, à des juifs de discuter de ce que devaient être les relations judéo-chrétiennes et la mise à jour de cette histoire terrible, dans un sens, et en même temps millénaire.
Je voulais poser une question à Mathieu Gervais. Est-ce que le thème des biens communs est utilisé dans ces mouvements écologiques d'inspiration catholique, premièrement? Et puis, attendez, j'avais noté une autre question. Est-ce qu'il y a des passerelles? Comment ça se passe? Ou ça ne se passe pas entre les mouvements écologiques carrément séculiers et les mouvements d'origine catholique, écologique d'origine d'inspiration catholique?
Merci, Martine, pour ces questions. Encore une fois, on voit
C'est une autre question.
Là, on voit aussi la richesse de notre laboratoire, je crois, et la façon dont nos recherches à chacun se croisent et s'entrecroisent. Donc, on a un spécialiste des biens communs ici. Hein, je ne sais pas s'il est ici. Alessandro, non? Bon, Alessandro, Sant'Agata. Et sinon, moi, ce que je peux dire sur les mouvements que j'étudie, c'est pas une problématique qui affleure. Encore une fois, moi, c'est un peu particulier. Mon approche de la religion, mon approche du catholicisme, mon approche de l'histoire du catholicisme, elle vient plutôt de l'extérieur. C'est-à-dire que je m'intéresse à des mouvements d'agriculteurs qui sont proches de l'écologie et j'essaye de tester l'hypothèse selon laquelle ils sont influencés par des visions religieuses. Donc, je fais un peu les choses à rebours. Voilà, premièrement. Deuxièmement, ta question, c'était les liens entre les associations, voilà. Là, pareil, dans les mouvements que j'étudie, il y a des liens forts avec les mouvements écologistes. Encore une fois, c'est des déséquilibres très dépendants des contextes locaux. Mais après, au point de vue du contexte politique, bon, voilà, il y a un certain nombre de cadres de la Confédération paysanne qui sont aujourd'hui des cadres d'Europe Écologie Les Verts. C'est pas un secret. Après, au niveau plus local de mon enquête, les choses sont plus diverses, mais il y a une proximité avec les associations et les mouvements écologistes, c'est sûr. Avec les associations et mouvements catholiques, C'est pas, je n'observe pas tant des proximités avec les mouvements catholiques aujourd'hui qui sont constitués en tant que mouvements catholiques se revendiquant d'une approche écologiste. Mais ce qu'on constate, c'est que dans l'histoire, par exemple, les mouvements, les associations anti-OGM dans un certain nombre de régions sont constituées de militants catholiques et c'est même des associations qui étaient formées depuis les années 80 sous diverses appellations, mais à chaque fois avec, on retrouvait les mêmes membres de l'Action catholique, les mêmes curés militants, les mêmes, voilà. Et ça, je crois que c'est Madame Sylvie Olitro qui a travaillé pas mal là-dessus sur le contexte militant écologiste en Bretagne et qui se rend compte aussi de ça. Et moi, je m'en rends compte aussi dans mon enquête. Mais ça, encore une fois, ça dépend des régions et le Grand Ouest est un exemple type de ces croisements où on voit que les associations écologistes sont fortement marquées par une sociologie catholique, effectivement.
Oui, une question à Sophie Nordman. Pendant très longtemps, a circulé dans le débat intellectuel l'idée que la vitalité intellectuelle du judaïsme français avait attendu les années 60 pour se renouveler. Et on rapprochait ça, d'une part, du délai nécessaire pour se remettre du traumatisme de la Shoah, je le dis de manière très approximative, et d'autre part, de l'arrivée en France des Juifs d'Afrique du Nord et de la manière dont ça avait pesé sur le débat intellectuel. Or, ce que tu expliques n'est pas du tout la même chose et modifie complètement la chronologie. Me semble ne pas être la même chose et modifier complètement la chronologie, ce que je trouve extrêmement intéressant. Et donc, j'aimerais bien savoir comment tu comprends cette petite tension dans l'explication.
Je pense qu'effectivement, il y a une sorte de point d'apogée autour des années 60 de la vitalité intellectuelle du judaïsme français. Néanmoins, si c'était le début de cette vitalité, une période de vie extrêmement courte, puisque la fin de cette vitalité, on la situe à la fin des années 60. C'est-à-dire, en gros, après la guerre des Six Jours et le tournant de 1967, puisque après ce tournant, la plupart des grands noms de la pensée juive française partent s'installer en Israël. Donc, peut-être qu'effectivement, là où je te rejoins, il y a peut-être dans les années 60, et pour les raisons que tu évoques, une apogée de cette vitalité néanmoins. Et effectivement, j'évoquais tout à l'heure les colloques des intellectuels juifs de langue française. Le premier colloque a lieu autour de 1957-58. Donc c'est effectivement la fin des années 50 et donc ça rejoint ce que tu dis. Donc il y a peut-être là une apogée, mais on ne peut pas penser que c'est quelque chose qui commence à la fin. Il y a vraiment un mouvement de fond qui commence bien avant. Et d'ailleurs, moi, j'ai situé mon propos à partir des années 1945. Mais on peut vraiment remonter plus loin. Et notamment, pendant la Seconde Guerre mondiale, se met en place une résistance par l'étude. Résistance des Juifs par l'étude, et on voit déjà poindre ce qui ensuite va sortir au grand jour après 1945. Sur ce point, il y a une étude assez intéressante de quelqu'un qui s'appelle Johanna Lehr, qui s'appelle La Torah dans la cité, qui montre que c'est justement pendant la guerre que s'est amorcé ce mouvement de vitalité intellectuelle. Et puis on peut même le faire remonter encore avant avec des figures comme celle d'Edmond Flegg ou de Bernard Lazare. Enfin, voilà. Donc, apogée dans les années 60, mais on ne peut pas dire que cette vitalité se réduise à ce très court laps de temps, je crois.
Juste un petit mot. Il ne faut pas confondre ce que l'on en dit aujourd'hui dans le sens commun de à partir de quand il y a eu un renouveau identitaire, affirmatif, juif ou de la pensée juive, avec ce qu'on en dit habituellement, avec la visibilité. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une visibilité à partir de la fin des années 60, oui, et après au cours des années 70, et qu'on associe généralement dans le sens commun cette visibilité à l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord. Mais l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord n'aurait rien donné s'il n'y avait pas eu avant tout ce qui s'est passé avant-guerre, pendant-guerre et juste après-guerre, l'école d'Orsay, les colloques des intellectuels juifs, etc., dans lesquels des Juifs d'Afrique du Nord et des Juifs ashkénazes ou des juifs autochtones se sont rencontrés déjà. D'autres, des juifs d'Afrique du Nord qui étaient arrivés en France sur le sol français avant les années 60. C'est très important. Et donc il y a toute une... à exhumer ce passé parce que, pour ne pas avoir cette déformation du sens, enfin, du sens commun, le plus commun. Quoi. Voilà, le renouveau juif, c'est les juifs d'Afrique du Nord, etc. C'est un grand poncif. Quoi.